Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Salut Mimi.
Oui, coucou.
Comment vas-tu?
Eh ben, ça va, ça va. On est content. Enfin, je suis contente d'être avec vous ce soir pour un nouvel épisode de Calibre.
Calibre, qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que c'est que cet Calibre? Calibre, c'est une libre antenne. Pour parler un petit peu des sujets qui vous touchent, qui vous questionnent et qui peuvent toucher à nos vos sexualités, notre sexualité, les relations affectives, l'amour, le couple, je sais pas, l'amitié, la jalousie, et aussi tout ce qui touche à nos corps, comment on s'y sent bien ou pas, ou qu'est-ce qu'on a envie de transformer dans nos corps ou pas, qu'est-ce que les autres nous renvoient, comment c'est facile ou pas d'être bien avec son corps, quoi.
Et donc on est content d'entendre, si vous nous appelez, de pouvoir partager avec vous des questionnements, des interrogations, des coups de gueule, il faut pas hésiter à nous appeler.
Voilà, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de mauvais sujets, hein, comme on disait, il n'y a pas de tabou, on essaye de pas avoir de jugement dans Calibre, donc vraiment n'hésitez pas. Et donc le numéro de téléphone pour nous appeler, donc en direct le jeudi soir, là, de 20h à 21h, c'est le 04 76 09 09 09. Je le répète une fois pour Greg, qui est en train de l'apprendre. Donc c'est le 04 76 09 09 09.
On va commencer en musique tout de suite avec Nina Hagen, Wenn ich ein Junge war.
Wir glauben, was wir wissen und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und uns sterben können. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren und wir rasen uns die Lebenszeit.
Vous êtes toujours à l'écoute de Calibre et on a un petit peu coupé la musique parce que figurez-vous que nous avons un appel. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est Yaz, c'est ça?
Hein?
C'est Yaz qui nous appelle, vous êtes Yaz, c'est ça?
Oui, oui.
Alors, pourquoi tu nous appelles ce soir? Est-ce qu'il y a...
Ben, j'ai des soucis d'élection.
Ouais.
Ben, c'est venu brutalement. Mm-hmm. Et voilà, quoi.
D'accord. C'est-à-dire
c'est,
que...
C'est pas quoi faire.
Ouais. C'est-à-dire que vous aviez une érection qui ne vous posait pas de problème.
À moitié.
Ouais.
Bah, une érection, dans l'action, ça descend.
D'accord.
Voilà.
C'est-à-dire que vous êtes excité, c'est-à-dire que l'érection se fait?
Comment?
L'érection a lieu au début de la relation?
Non, je veux dire, en étant seul,
ouais.
En masturbation, pas dans le mois, ça se passe bien.
Ouais.
Et c'est quand il y a un contact avec quelqu'un d'autre, c'est ça en fait que ça pose problème ou qu'il y a une perte de...
Non, mais ça baisse dans le vagin.
D'accord.
D'accord.
Je comprends pas.
C'est quand vous pratiquez une pénétration avec une partenaire.
Voilà, voilà. Ça descend, voilà.
D'accord. Vous, quand vous... Je ne sais pas si vous vous masturbez, est-ce que vous avez fait le test?
Tout va bien.
Oui, ça va. Donc c'est ouais. Vrai. D'accord.
Vous pensez qu'il y a des choses qui vous passent par la tête? Vous, est-ce que... Déjà, bon, peut-être question de base. Vous avez des relations avec des personnes différentes? Est-ce que c'est des choses
oui,
qui se passent avec tout le monde, en fait?
Tout à fait. Non, mais de temps en temps, quoi. Mais le stress.
Mais est-ce que de temps en temps, ça veut dire quoi? Parce que on a tous le coup de la panne. On appelle ça le coup de la panne. C'est comme en mécanique.
Voilà, tout à fait. Le coup de la panne. Ouais.
Et ça vous pose beaucoup de problèmes.
Ça devient embêtant, quoi.
C'est quoi qui est embêtant dans ces situations?
Bah oui. Bah j'ai peur maintenant. On a peur. On a peur.
Comment vous arrivez à discuter de ça avec la personne avec qui vous êtes quand ça se produit?
Je suis seul. Pour le moment, je suis seul. Mais quand je suis avec quelqu'un, ben, je suis excité, oui. Et après, à l'acte, ça baisse.
D'accord.
En plein action.
D'accord. Mais est-ce que la personne avec qui vous êtes au moment où ça se produit, où vous perdez l'érection quand vous êtes dans le vagin, ou en tout cas en train de...
Je la perds.
D'accord, mais quand ça se produit, vous arrivez à discuter de ça avec la personne, c'est vraiment quelque chose de...
Non, mais c'est sympa, c'est ça. Non.
Qu'est-ce qui se passe du coup dans ces cas-là?
Bah, il se passe que ça devient psychologique, j'y arrive plus, et c'est la panne totale, quoi.
D'accord, et du coup vous trouvez d'autres façons de vous donner du plaisir ou vous arrêtez là?
Non, j'arrête.
D'accord.
La frustration, quoi.
Ah ouais.
Ouais.
Et la personne a aussi envie d'arrêter en face? Comment ça se passe? La personne qui est avec vous au moment de l'acte, c'est... vous n'avez pas envie de lui donner du plaisir d'une autre manière, peut-être?
Non,
de faire d'autres jeux?
Elle est prend mal. Elle ne m'aide pas, quoi.
D'accord. C'est pas parce qu'en fait bon après
jugé.
Ah, vous vous sentez jugé en fait?
Ouais, tout à fait, ouais.
D'accord, mais ça c'est vrai que c'est un peu problématique parce que ouais, c'est des choses ouais. Qui arrivent quand même à tout ouais. Le monde ou en ouais. Tout cas c'est reconnu ouais. Et je crois qu'il y a même des gens qui arrivent à relancer la machine, si j'ose parler ainsi.
On me laisse pas l'occasion, quoi.
C'est peut-être plus ça le problème, non? Ou est-ce
peut-être.
Que
peut-être, je sais pas.
Parce que vous, c'est vraiment quelque chose qui vous...
Ça me tue la vie, quoi.
Ouais, ouais.
Ah ouais, je suis totalement effondré, je sais pas, ouais. Je comprends plus.
Bah, je sais pas si ça doit vraiment... c'est vrai que ça doit être un peu perturbant.
Je le suis.
Ouais, d'accord. Je crois que, en fait, ce qui est important de voir, c'est quand même que, bon, tout fonctionne apparemment normalement quand vous masturbez.
Voilà.
Et puis, je crois qu'il y a sans doute aussi des gens avec qui vous pouvez peut-être établir un lien de confiance. Peut-être d'en parler un peu avant, ça peut de prévenir la personne, de dire, oh, ça peut arriver, mais peut-être qu'il va falloir travailler ensemble pour que...
Monsieur.
Oui.
Mais la partenaire, elle m'a jugé.
Bah c'est peut-être là où il y a un problème, c'est-à-dire soit c'est une personne qui effectivement pour elle ce qui l'intéressait, un pénis en érection.
Elle est intéressée que par ça.
Voilà. Alors peut-être, est-ce que ça c'est quelque chose que elle vous a dit, ou c'est quelque chose que vous vous dites, que vous vous imaginez? Parce que c'est vrai que dans notre société...
Elle m'a fait latéralement agresser. C'est-à-dire, elle voulait tout de suite,
ouais,
ce qu'elle voulait.
D'accord. C'est-à-dire qu'elle, ce qui l'intéresse quand vous faites du sexe ensemble, c'est une pénétration vaginale.
C'est ce qui est intéressant. C'était intéressant pour elle. Mais moi, par contre, je suis un peu fleur bleue. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous avez essayé d'autres pratiques? En fait, vous avez toujours la même partenaire? C'est ça que je n'entends pas bien. C'est...
Non. Honnêtement, pardon, je change souvent. Mais le doute persiste.
D'accord, ok.
À chaque fois, il y a ce sentiment de ne pas arriver.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il est bon
de... C'est un blocage, voilà.
Ouais. Comment est-ce qu'on peut travailler autour de ce blocage? Comment est-ce que vous voulez travailler autour de ce blocage?
Je ne sais pas.
Je pense que d'en parler, c'est bien parce que...
Parler à qui?
À la personne, parce que je pense que quand on a quand même du sexe avec quelqu'un, en tout cas, moi j'essaie de discuter un peu, de savoir ce que la personne aime, de savoir comment ça peut se passer.
C'est sympa de votre part, mais bon, j'ai plusieurs partenaires, mm-hmm. Et à chaque fois, j'y pense.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui a démarré d'un coup?
Comment?
Est-ce que c'est quelque chose qui est venu d'un coup?
Vous savez, depuis que la mère de mes enfants est partie, quoi.
Ouais.
Ben voilà.
Ouais. D'accord.
J'ai eu 17 années de sexualité normale.
Ouais.
Et voilà. Et ça bloque, quoi.
Ouais.
Je sais pas quoi faire.
Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs pans sur lesquels on pourrait avancer. Il faut bien avoir conscience que dans notre société aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de pression qui est mise sur les femmes pour qu'elles soient toujours disponibles et sur les hommes pour que effectivement ils aient des grosses érections. Bon.
Non, mais madame, s'il vous plaît, ça n'engage que moi, quoi. Mm-hmm. Les filles d'aujourd'hui, c'est Internet, c'est le sexe, il faut être performant à toute heure, et nous, on peut pas suivre, quoi.
Alors, je vous assure que toutes les filles ne recherchent pas de la pénétration vaginale.
Apparemment, ce que je constate, moi, ce qui m'arrive, tu sois là et voilà.
Mais est-ce que c'est pas un petit peu de la pudeur de pas réussir à parler et d'avoir des demandes
Moi personnellement, je suis pudique, un peu timide.
Ouais.
Et voilà, on se sent agressé, quoi.
Mais ça, c'est une sensation que vous avez, vous, de vous sentir agressé. Est-ce que c'est forcément les autres qui vous agressent? Est-ce que c'est vraiment une réalité ou c'est...
La partenaire, elle veut tout de suite ce qu'elle veut, quoi.
Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à nous décrire un petit peu?
Je décris. Par exemple, elle veut sucer, quoi.
Ouais.
Oui, mais j'ai pas les moyens tout de suite. Pour moi, c'est... s'allonger, discuter, et voilà, quoi.
Mais parce que pour pratiquer une fellation, il n'y a pas besoin que le sexe il soit en érection.
Non, ça marche pas.
Ça marche sans sexe en érection. C'est possible.
Non, mais écoutez, madame, s'il vous plaît, quand je ne suis pas en érection,
ouais,
et tout de suite, elle veut faire une fellation.
Ouais.
Écoutez, mais moi je suis lapidé, je comprends pas
Mais parce que c'est quoi le problème? Elle a envie de vous faire une fellation alors que votre sexe n'est pas en érection?
Tout de suite.
Mais elle sait quand même comment ça fonctionne. Il faut qu'il y ait quand même une envie et une excitation. Du coup, en fait, il faut prendre le temps.
Elle ne comprend pas. Mais... Bah oui, mais t'es... comment on dit? T'es impuissant, mais c'est pas le cas. Pour moi, c'est le fait de... comment dire? Ben, de passer un moment, oui. Discuter.
C'est pas la manière qui vous convient, en fait.
Voilà.
Mais
voilà.
Du coup, cette partenaire, vous n'êtes plus avec, en tout cas. Vous la voyez encore ou pas?
Si, j'ai rendez-vous avec dimanche.
Et ça vous fait, vous avez hâte de ce rendez-vous? Vous avez envie de ce rendez-vous
non,
ou pas du tout?
J'appréhende.
Est-ce qu'il faut continuer à avoir cette partenaire-là, du coup, en fait? C'est parce que il y a forcément des gens qui sont plus compréhensifs, il y a des gens qui, avec qui on a le droit de prendre plus le temps, de discuter.
S'il vous plaît, est-ce que j'ai besoin d'aide du Cialis, entre autres, ou Viagra, ou je sais pas?
Je crois vraiment pas, parce que bah après je sais pas, il faut consulter. Je pense qu'il faut consulter un médecin, mais la mécanique fonctionne, hein, c'est ce que vous nous
oui.
dites.
La mécanique fonctionne chez moi, mais par rapport au partenaire, ben on est agressé et il faut tout de suite, il faut être performant, il faut c'est pas moi.
Moi j'ai envie de dire.
Pardon quoi.
J'ai envie de dire si c'est vous. Qui avait envie d'avoir des érections pour votre propre plaisir, d'avoir des érections plus grosses, ça peut valoir le coup d'aller consulter un médecin, voir ce qu'ils en pensent. Après, si c'est pour céder à la pression, si c'est juste parce que la personne en face vous demande et vous agresse et vous dit de le faire, pour moi, ça, c'est pas une bonne raison, parce que c'est pas vous qui le voulez, en fait.
D'accord.
Je pense que c'est bien de trouver une partenaire avec qui on se sent à l'aise et avec qui, en fait, on n'a plus cette pression-là, parce qu'on fait quand même quelque chose d'intime. C'est quand même.
Monsieur, excusez-moi, c'est la pression.
Ouais.
Ben, c'est ça. Mais du coup, il faut trouver quelqu'un avec qui on arrive à enlever cette pression, peut-être.
Et comment faire?
Eh ben, discuter, trouver une autre personne, je sais pas, quelqu'un qui vous convient. Comment est-ce que vous pensez faire?
Est-ce que vous avez envie d'essayer de continuer avec cette personne, déjà, malgré ça?
C'était Yaz, on a perdu Yaz, on est très déçus.
Oui, puis en plus, on manque un petit peu d'éléments pour pouvoir continuer de notre côté. Ce qu'on peut faire, c'est lancer une musique, voir s'il rappelle entre-temps. Et puis sinon, on passera à autre chose.
On va écouter Sophistique, Léontine, si tout se passe bien.
Au milieu de la foule, avec ta jolie cagoule, tu tortillais des fesses devant les CRS, tu gigotais ton cul devant tous ces locs durs, tu frétillais sans même te soucier de leur chien.
Ouh, Léontine, c'est toi ma meilleure copine. Ouh, Léontine, c'est toi ma meilleure copine.
Tu étais tellement drôle sous ta banderole qu'on s'est embrassé sous une pluie de pavés. Tu étais sans gêne sous les gaz lacrymogènes. Le coup sous mon aisselle, tu as fait un petit cocktail.
Ouh, Léontine, c'est toi ma meilleure copine. Ouh, Léontine, c'est toi ma meilleure copine.
Ni maître ni dieu devant les barricades, les yeux dans les yeux dans le panier à salade. Tu étais rigolote avec tes petites notes, mais sous les coups de trick, j'appris t'étais une indique.
Ouh, Léontine, t'étais ma meilleure copine. Ouh, Léontine, t'étais ma meilleure copine.
Calibre sur Radio Kaléidoscope. Et en fait, on vient de perdre Yaz, qui nous parlait de problèmes d'érection. qui se produisent apparemment tout le temps avec la même partenaire et il ressent une pression. Mimi, je pense que tu as peut-être un dernier mot à partager avec Yaz, à moins qu'il arrive à nous rappeler.
Ouais, moi, je voulais. Ça m'aurait intéressé de savoir comment il se sentait par rapport à cette relation, s'il sentait le courage ou l'envie de l'arrêter parce que ça lui mettait trop de pression, ou s'il tenait à cette personne ou à cette relation avec elle et que du coup il voulait continuer. Et dans ce cas-là, je m'étais dit, peut-être ça peut valoir le coup de lui essayer de prendre les choses en main et de la surprendre en fait en lui proposant d'autres types d'interactions sexuelles qui mettront moins la pression sur sa qualité d'érection et peut-être que d'ailleurs ça se passera mieux à partir de ce moment-là. Mais bon, comme il est plus là, on sait plus.
Ouais, il faut qu'il trouve ses solutions, mais que voilà, c'est important qu'il arrive à désamorcer un peu ses doutes, je pense.
Ouais, en tout cas, c'est toujours dommage de rentrer dans des démarches parce que on nous met la pression, que d'autres personnes nous mettent parce qu'on se sent contraint. Après, j'entends très bien que ça doit être compliqué pour un garçon aujourd'hui de ne pas être dans la performance sexuelle, puisque quand même les gars sont beaucoup poussés à ça, c'est vrai.
Un tout petit peu trop, beaucoup trop.
En tout cas, Yaz, merci pour ton appel. Et puis on espère avoir apporté quelques billes à tes interrogations. Et puis courage. Et puis surtout, ne subis pas des choses que tu ne voudrais pas vivre. Voilà, c'est ça qui est important. Oui. De savoir dire non quand on veut pas, quand on nous presse trop.
Juste rappeler le numéro de téléphone pour nous appeler en direct, 04 76 09 09 09. Et puis on a un site internet aussi où vous pouvez trouver notre email et toutes les références, k-libre.poivron.org. Et puis puisqu'on en est aux appels, en fait la semaine dernière il y a eu un appel concernant justement une fille qui a vécu des fausses couches. Et je pense que Mimi, tu voulais aussi revenir un petit peu dessus parce qu'il y avait des références qui manquaient apparemment, ou il y avait peut-être des conseils que...
Ouais, en fait, bon, juste pour résumer rapidement, si vous n'avez pas suivi l'émission de la semaine dernière, c'était un super appel donc d'une nana qui s'appelle Julia et qui a fait plusieurs fausses couches et qui disait qu'elle n'était pas préparée du tout à vivre ces fausses couches parce qu'on n'en parlait pas. Bon, je vais pas refaire toute l'heure de la semaine dernière, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et notamment, à un moment, elle se disait, mais alors peut-être que finalement, je suis plutôt en train de réfléchir à me dire que j'aurai pas d'enfant et que ça me va et que c'est comme ça. Et elle regrettait le manque. Elle disait, mais on n'a pas de modèle de femmes qui n'ont pas d'enfants, en tout cas pas de témoignages de femmes qui soit auraient fait ce choix, soit pour une raison ou pour une autre se retrouvent sans enfants. 40, 50, enfin 60 ans, enfin non, pas d'enfants.
Ce que tu veux dire, c'est que il y a une pression pour que, enfin, il y a cette idée un peu saugrenue que une vraie femme, c'est une mère, c'est aussi ça.
Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on est en plein dedans. Et puis j'ai l'impression qu'en France, en particulier là où on s'extasie sur le taux de natalité. Bon, alors je dis pas c'est bien ou c'est pas bien d'avoir des enfants. Hein. La question c'est de pouvoir faire les choix qu'on veut et de pas avoir la pression, encore une fois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que femme, on nous met bien la pression pour faire des gamins. Encore plus si on est une femme hétérosexuelle et encore plus si on est une femme hétérosexuelle qui vit en couple. Alors là, ça paraît complètement fou de pas vouloir d'enfants ou de pas en avoir, en tout cas. Il y a une étude de la Caisse nationale d'allocations familiales qui date de 2000 qui disait qu'il y avait 8% des couples qui n'avaient pas d'enfants. Et dans ces 8%, enfin, alors je sais plus des couples depuis combien de temps, mariés, pas mariés, bon bref, mais dans ces 8% de couples sans enfants, la moitié c'était par choix et l'autre moitié c'était par contrainte parce qu'ils n'ont pas réussi à en avoir. Voilà. Et puis il y a à peu près une femme sur 10 qui atteint 50 en deux. En 2000, femme sur 10 qui atteignait 45 ans qui n'avait pas d'enfant. Voilà, ça c'était un peu pour rappeler des chiffres. Et puis oui, après la pression, c'est vrai qu'on... Alors, on a quand même tendance assez rapidement, quand une femme dit ne pas vouloir d'enfant ou ne pas avoir d'enfant, c'est tout de suite le pourquoi, en fait. Hein. Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Alors que ça ne nous vient pas à l'esprit dans l'autre sens, quand c'est une femme qui a des enfants.
Mais pourquoi avoir des enfants?
Mais pourquoi t'as des enfants? Mais tu veux des enfants? Mais pourquoi?
Quoi que j'ai déjà entendu.
C'est vrai? Ouais, mais dans certains milieux, je
dans
pense.
Dans certains milieux.
Mais c'est vrai que en fait, dans avoir des enfants ou pas, je sais, il y a pas de bonne raison ou de mauvaise raison. C'est des choix personnels et voilà. À un moment, faut arrêter de renvoyer aux femmes qui veulent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants qu'il y a quelque chose qui leur manque dans la vie. Non, tout ça, c'est des normes et c'est des représentations qu'on a. On n'est pas obligé de les suivre, quoi.
Ouais. Et je crois que tu avais des références justement en termes de livres, de films qui pouvaient être intéressantes justement pour se faire une idée de ces femmes qui sont des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui le vivent très bien.
Voilà. Alors c'est des. Bon, il y a plein de films sur pourquoi, enfin, de livres sur ne pas vouloir d'enfants, pourquoi, etc. Mais là, moi, je me suis concentrée sur des témoignages puisque c'était ce que Julia cherchait. Donc, il y a un film qui s'appelle L'embarras du choix, qui est un film français qui date de 2006, qui fait 66 minutes. Et la réalisatrice, c'est Isabelle Thavenot. Elle s'appelle. Et puis je vais vous lire un peu ce qui se passe, ce qu'elle dit de ce film-là. Donc, il y a des femmes sans enfants. Est-ce un choix, un hasard? Est-ce une décision liée à un événement particulier ou le résultat d'un parcours personnel? 5 femmes, entre 45 et 55 ans, abordent ces questions avec la réalisatrice. Elles évoquent leur passé, racontent leur histoire de la non-maternité. Elles disent aussi la particularité de leur situation et interrogent l'évidence de l'équation « une femme égale une mère ». Donc elles interrogent hein, cette évidence. moi, c'est un film que j'ai vu il y a quelques années et que j'ai vraiment trouvé très bien. Après, je ne sais pas, j'ai vu que sur Internet, on pouvait contacter le distributeur pour l'acheter. Voilà, je ne sais pas comment il est diffusable autrement.
D'accord, moi je ne l'ai pas vu et j'avoue que ça me rend curieux.
Ouais, non, il est vraiment très, très, très simple, très chouette. Après, il y a un site internet un petit peu référent sur ces questions de ne pas avoir d'enfants. Alors là, c'est plutôt des personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants qui ont créé ce site. Et du coup, ça s'appelle Child Free. C'est des libres d'enfants ou libérés des enfants. Je ne sais pas comment dire ça. Donc c'est childfree.moonfree.org. .fr, bon, mais je vous donnerai on mettra tout ça sur internet parce que c'est child free, c'est en anglais, et le point moon, fruit en français, .fr, enfin bon, c'est un peu galère. Et sur ce site, il y a plein de références, ça renvoie sur plein de livres, sur des films qui ont l'air plutôt d'être un peu des comédies débiles, je suis pas sûre que ce soit les meilleurs films sur ce sujet, mais en tout cas, sinon il y a des témoignages, il y a même des articles scientifiques sur la question, enfin plein de choses. Il y a notamment sur le site, vous trouverez en téléchargement libre donc ce rapport d'étude de la Caisse nationale familiale qui date de l'année 2000, qui s'appelle « Ne pas avoir d'enfants, construction sociale des choix et des contraintes à travers les trajectoires d'hommes et de femmes ».
Qui est le seul sur le sujet hein, depuis toujours d'ailleurs, en tout cas en France.
Voilà. Et après, il y a deux autres bouquins que vous pouvez trouver en bibliothèque et qui traitent de cette question-là, qui sont aussi des bouquins de témoignages. On vous mettra les références sur le site. Ça s'appelle, un qui s'appelle « Pas d'enfant, dit-elle » de Edith Vallée et qui date de 2005. C'est un recueil de témoignages de femmes en 75 et en 2000 qui ne veulent pas d'enfants. Voilà. Et un autre bouquin qui s'appelle « Être femme sans être mère » d'Émilie de Vienne et date de 2007. Et c'est une journaliste qui enquête sur les motivations profondes de ces femmes qui décident qu'il est possible d'être femme sans être mère et de s'inscrire autrement dans les lignes humaines.
Donc on mettra toutes ces références sur le site internet kcas-libre.poivron.org et on a retrouvé Yaz, je pense. Allô?
Allô?
Oui.
Allô.
Ah.
Oh, bonsoir.
Ah, ça fait plaisir. On avait peur de vous avoir perdu.
j'ai plus de crédit. Hein.
Ah,
ça pose problème.
Ouais, bah ouais, on essaye, écoutez, nous, de mettre en place pour.
Écoutez, mais c'est la pression qu'on met.
Ouais.
Du coup, en fait, ce que Mimi disait quand vous n'étiez plus en ligne, peut-être, c'était de savoir si vous vouliez continuer cette relation avec cette personne ou qu'est-ce que vous pensiez faire de mieux pour vous. Comment est-ce que ça pouvait... Je crois qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Voilà. Ben, je pense que, en tout cas, Yaz, vous pouvez nous contacter par email aussi. On a l'email sur le site internet. Voilà.
Mais oui, parce que ce numéro de téléphone marche que quand on est en direct. Sinon, on n'a pas de ligne téléphonique. Voilà. Donc, ben, j'espère qu'on pourra, je crois, arranger ces histoires de téléphone, parce que c'est quand même un peu frustrant, des gens qui ont envie d'être là et avec qui on a envie d'échanger. Et pour nous, on peut pas appeler en fait du téléphone du studio, c'est une ligne qui est bloquée, donc voilà, c'est un petit peu dommage.
Je pense que avec toutes ces références, on va peut-être faire une petite respiration musicale.
Oui, c'est vrai. On saute du
coquerel. On va écouter et puis on vous dira après.
São 15 segundos para acontecer neste imenso Brasil. A vítima pode ser você. Homens exercem a força, exercem o poder. A sociedade fecha os olhos, pois ninguém quer ver. Legitimando só porque acontece a todo momento. Vamos continuar lutando pelo direito. Afinal, em briga de marido e mulher, sabe como é. Ninguém mete a colher, assim eu não aguento. O silêncio é um cúmplice artificial. Não considere a violência natural. E não falo apenas do estupro ou da física, pois aparecem muitas outras na estatística. Espancamento, ofensa, tortura psicológica. Impedir de sair, ir e vir, não tem lógica. Morreram muitas outras, ficaram inválidas. A lei que pune se resume em cestas básicas. É preciso investir na não violência. Despertar na população plena consciência. Exigir efetivas providências do Congresso. Brasileiras sempre contribuem para o progresso.
Minas a rimar, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Lágrimas descem meu olho, incha que amargura assina. Surra na cara, de baixo pra cima. Se eu contar, ninguém acredita. Porrada do quarto, a pia, martírio diário. Será que alguém me liga? Na frente das crianças, não. Tenha coração, compaixão, consciência. É frágil minha situação, não. Sua voz era macia, agora são socos, chutes e pontapés na minha barriga. Clemência, vem da infância esse abuso em mim. Saia de mim, não faz assim, respeite o que tenho aqui. Dentro, um fruto nosso, você se destrói no copo. Acaba com o que é nosso, por isso mais não posso. Lágrimas descem, gotas de sangue e choro. Pra você é apenas mais um corpo roxo. Meu sofrimento marcado, estampado no rosto. Isso pra mim é dor, sofrimento e desgosto. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher.
Na luta por direitos, mulheres sempre unidas. Esse é o lema das Minas da Rima. Marcando pesado e indo pra cima. Qualquer violência, independente de quem se origina. Estamos de olho, se liga na rima. Pense bastante ao levantar sua mão. Bater nem por brincadeira, a cadeia é pequena. Pra você, pra todo mundo que não tem consciência. Nenhuma cesta básica vai tirar os hematomas. Ela caiu, bateu a cabeça, ninguém viu. É uma zona de guerra entre os sexos e a justiça não é cega. Abriram uma festa no meio da sua testa. Mesmo assim, só observa o que interessa pra alguns bolsos. Projetos de leis parados e a violência comendo solta. Insistindo, mulherada, na votação é aprovação dessas leis que estão paradas. Vamos fazer pressão, violência no. Nunca mais, fique esperto, cidadão.
Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher.
Alors c'était Mina. Alors je ne parle pas portugais, hein, pas comme d'autres qui parlent allemand là. Donc c'était Minas da Rima, violência contra a mujer, genre les violences contre les femmes. Voilà.
Je pense que c'est une bonne traduction.
Ça me paraît. Alors on va, comme Jazz, on n'a plus de crédit une nouvelle fois. Tant pis, on essaiera de voir comment faire pour une prochaine fois, pour continuer cette discussion. Et on va passer à toute autre chose.
Oui, moi, il y a un sujet qui m'a un peu sauté aux yeux et à la tête il n'y a pas très longtemps. J'ai une personne proche de moi qui m'a fait une grande annonce pour me dire que, en fait, elle voulait transitionner. C'est-à-dire faire un parcours trans et donc passer de son genre masculin vers un genre plus féminin. Et du coup, en fait, moi, j'ai essayé d'être bienveillant, de poser des questions, de savoir si je pouvais faire quoi que ce soit. Et je me suis surtout retrouvé face à mon ignorance un peu crasse face à ce sujet, hormis les questions de discrimination que je peux connaître ou les revendications un petit peu des trans concernant la psychiatrie et puis d'autres choses. Et cette amie en fait m'a généreusement prêté deux livres que vraiment je recommande à toutes les personnes qui se posent des questions, qui sont comme moi ingénues sur le sujet, qui n'y connaissent un peu rien, ou à des personnes qui sont vraiment dans une démarche de changer de sexe, de changer d'identité, de changer de genre aussi. Et parmi ces deux livres, il y a Le Petit Mutatis Illustré, qui est un livre publié par une asso de Bordeaux, une asso qui s'appelle Mutatis Mutandis, expression latine qui veut dire les choses qui doivent changer. Et il y a un autre bouquin qui s'appelle Changer de sexe, identité transsexuelle, d'Alexandra Auguste Merel et de Stéphanie Nico. Voilà, donc ça c'est un livre carrément plus militant, qui remet pas mal en question des visions assez conservatrices en général. Et puis en fait, ben, vous verrez si vous lisez un peu le sommaire, ils reprennent un peu toutes les idées reçues et les clichés contre les trans pour en faire un sommaire et décliner un peu toutes les questions qu'on peut se poser. Par exemple, les trans, ce sont des malades mentaux, les trans souffrent beaucoup, le sexe dégoûte les trans. Tout ça, c'est des catégories qui permettent un peu d'y voir un peu plus clair. Moi, peut-être ce qui m'intéressait, c'était peut-être de poser un peu la problématique et puis de voir un peu qu'est-ce qu'on entendait par genre, par sexe biologique, les sexes et les phénotypes aussi. Et Mimi, je me souviens que tu avais fait une petite émission de radio il n'y a pas si longtemps où tu nous avais très bien expliqué tout ça, si tu voulais peut-être nous faire un petit rappel.
Ouais, alors je peux faire style ma spécialiste, là je réajuste mes lunettes en face du micro. Non, en fait, ouais, quand on parle de personnes trans, moi, j'identifie qu'il y a deux types de transitions qui se juxtaposent. Il y a la transition, on va dire, physique, de changer son sexe, ce qu'on appelle le sexe biologique. Et puis, il y a la transition sociale, c'est-à-dire de passer d'un genre à l'autre. Et du coup, c'est pour ça que ça peut valoir le coup de définir un peu qu'est-ce que le sexe biologique et qu'est-ce que le genre. Alors, le sexe biologique, c'est un peu ce qu'on considère comme la donnée de base. Genre, on est avec, quoi. Quand on se forme dans un ventre et puis qu'on sort d'un utérus, et ben, a priori, on est avec ces données-là de base. Donc, le sexe biologique qui est constitué de trois composantes. Il y a les chromosomes. Donc c'est le fameux XX pour un garçon, XX pour une fille et XY pour un garçon. Bon, en vrai c'est pas si binaire, mais on va schématiser parce que sinon ça va être compliqué. Donc XXXY. La deuxième composante du sexe biologique, ce sont les organes génitaux. Donc genre, est-ce qu'on a un pénis et des testicules ou est-ce qu'on a un vagin et des ovaires? Voilà, et un clitoris, attention. Important.
Très important.
encore une fois, pour schématiser, hein, c'est pas si binaire. Et la troisième composante du sexe biologique, c'est ce qu'on appelle le sexe phénotypique. Donc c'est un petit peu un gros mot. Mais en fait, c'est la morphologie, c'est-à-dire la tête de nos corps et ce qui est lié aux hormones, quoi.
Tout ce qui sort avec les hormones, c'est-à-dire la répartition des masses graisseuses.
Voilà, la pilosité.
La pilosité, ces choses-là.
Voilà. Donc ça, ces trois trucs, c'est ce qui constitue le sexe biologique.
Tout ça est très flou et fluctuant. Et par-dessus, si je comprends bien, on rajoute une notion de genre.
Voilà. Alors le genre, on se situe pas du tout dans le même cadre
scientifique.
Ouais, peut-être. Dans la même vision des choses. Le genre, c'est quelque chose de construit. C'est une construction sociale, donc une construction de groupe qui va s'appuyer sur le sexe biologique, mais en fait, on va partir de ce sexe biologique et on va en définir des comportements sociaux ou des attitudes à avoir. Par exemple, c'est une femme, c'est gentil, c'est attentionné, ça c'est être à l'écoute et dans le soin des autres personnes. Ça c'est de l'ordre des stéréotypes de genre. C'est-à-dire on décide que parce que t'as un vagin, ta construction de femme va faire que tu vas être dans le soin des autres. Voilà.
Voilà, toute une construction sociale.
Voilà. Et du coup, la transition, moi, j'ai l'impression que c'est les deux à la fois. C'est à la fois, et c'est pas obligatoire, mais changer ses caractéristiques physiques, du sexe biologique. Alors, ça peut être changer juste, avec les trois composantes, c'est-à-dire changer ou pas le dosage d'hormones qu'on a, changer ou pas les organes génitaux. Après, les chromosomes, par contre, on peut pas y toucher. Et aussi changer le genre, c'est-à-dire comment on est considéré par les autres, hommes ou femmes.
Et donc rentrer un peu dans des comportements qu'on réapprend d'un autre genre ou qu'on décide de désapprendre ou voilà. Ça, merci Mimi pour ce petit rappel.
Je t'en prie. Et moi,
je voulais peut-être aussi, en fait, ce qui m'a intéressé du coup, c'est de voir un peu le parcours classique que les trans peuvent avoir en France, parce qu'en fait, une fois que la personne décide, prend sa décision de transitionner à quelque niveau que ce soit, il y a un parcours qui est le parcours dit officiel. Alors, il faut juste savoir qu'en France, il n'y a pas de loi en fait sur la transition, ce qui peut être à double tranchant, mais en gros, un parcours, ça commence par prendre rendez-vous avec un psychiatre. Et puis avoir un suivi pendant 2 ans, parce que c'est ce psychiatre qui détient un peu la clé pour la prescription d'hormones si on décide de prendre des hormones. Et c'est aussi grâce à lui ou à cause de lui qu'on peut faire une demande d'ALD, c'est-à-dire une demande d'affectation de longue durée auprès de la caisse d'assurance maladie. Ça, c'est pour être remboursé à 100% par la Sécu pour justement tous les traitements qu'on aura besoin d'avoir quand on décide de transitionner.
Donc affection de longue durée, c'est ça ?
Affection de longue durée, et là-dedans, il y a une liste très très courte et c'est assez récent en fait, les trans... je pense, une petite case qui s'appelle ALD31 pour dire qu'ils sont hors liste. Mais sinon, ça définit aussi pas mal il y a des maladies, évidemment, hormonales, il y a des traitements post-ménopause, et puis il y a aussi de la schizophrénie, des maladies mentales. Et à l'origine, quand on voulait transitionner, on était classé en ALD, je pense que c'était 21, justement, dans la schizophrénie et les troubles du comportement.
D'accord.
Donc, le parcours classique, le psychiatre, quand on n'a pas de chance, c'est 2 ans, voire plus quand vraiment les gens décident de faire un peu mariner. Après, s'établit un diagnostic triple avec, du coup, le psy, le médecin traitant et puis un chirurgien. Si on décide qu'il va y avoir justement une opération chirurgicale. Ce dossier-là est revu par un médecin de la Caisse nationale d'assurance maladie qui va donner son feu vert ou non. Ça, c'est des procédures qui peuvent se faire et se refaire ad vitam aeternam jusqu'à ce que, en fait, quelqu'un décide d'accepter ou non. Donc, on peut imaginer un peu les souffrances de tout le retard dans la procédure. Et une fois que le sésame est obtenu, qu'on a ce diagnostic et qu'on a l'autorisation de ce tripartite, en fait, on a le droit de commencer l'hormonothérapie, qui a une durée variable. Donc, en fonction de sa transition, et si on décide de prendre des hormones, il y a des hormones qui bloquent les hormones qu'on a à la naissance. C'est-à-dire que si on est un garçon et qu'on se dirige plus vers un corps et en tout cas un genre féminin, et on peut prendre de l'androcure, par exemple, qui va bloquer la sécrétion de testostérone. Et en fait, il y a toute une phase d'ajustement. Et après ce traitement-là, il y a un traitement œstrogène, progestérone, toujours pour ce qu'on appelle les trans M to F, donc male to female, donc garçon vers fille, pour rester très schématique. Et puis dans l'autre sens. Après cette hormonothérapie, se choisit ou pas une opération chirurgicale pour décider qu'on décide d'avoir un sexe extérieur, biologique, en tout cas des organes génitaux qui vont ressembler au sexe vers lequel on veut transitionner le plus possible. Et puis après se passe toute une série de traitements post-opératoires, à savoir rééducation de la voix, une épilation définitive si nécessaire, comment est-ce qu'on gère la pomme d'Adam pour les garçons, pour qu'elles soient moins proéminentes. Des chirurgies faciales ou en tout cas des chirurgies plastiques pour voilà un peu gommer les aspects qu'on juge personnellement trop représentatifs du sexe qu'on décide de quitter. Et puis il y a aussi, alors apparemment il y a des stages pratiques, c'est bien que tu parles de jeu, enfin qu'on ait rappelé un peu le genre avant, parce qu'apparemment il y a des stages pratiques pour justement avoir des attitudes plus ou moins féminines ou masculines. Ça on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas on sait que ça existe. Et puis après, il y a évidemment l'engrenage kafkaïen de l'état civil, parce qu'il faut une décision du tribunal pour arriver en fait à changer sur son petit numéro de sécu le 1 à la place du 2, et puis changer ses papiers. Voilà.
Okay. Le psychiatre là et les trois médecins, en fait, ils jugent de quoi? C'est quoi le, enfin, pour donner leur accord, ils vérifient quoi?
Ben en fait, le problème c'est qu'en France, il y a pas de loi, et du coup il y a pas de protocole vraiment vraiment clair là-dessus. Et du coup, en fait, il y a ces espèces de, enfin, en fait, ces gens qui se sont regroupés parce qu'ils ont bien compris que c'était quand même aussi un filon financier. Et ils jugent en fait de la stabilité de la famille, savoir si la personne qui veut transitionner, déjà ils jugent de la condition de la personne, savoir si elle a des revenus stables, savoir si elle a une famille et des enfants, et dans ces cas-là c'est plus difficile, savoir quel âge elle a, et en fait chaque groupe préformé qui décide de voilà, qui sont en fait qui s'autoproclament protocole pour transitionner, a un peu ses critères spécifiques. Ben là dans le livre qu'on a par exemple sur Paris, il y a un groupe qui s'est auto appelé le protocole Cordier, sans doute du nom du médecin et du, ou en tout cas du, voilà, du médecin qui gère tout ça. Et les critères, c'est d'avoir plus de 23 ans, n'avoir jamais été marié, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas pratiquer la prostitution et d'être à destinée hétérosexuelle dans son sexe d'arrivée. Ça c'est à Paris. À Lyon on a autre chose, il faut être âgé de 25 ans à la place de 23 pour Paris, d'avoir un logement stable, des ressources fixes, voilà. Donc en fait c'est un peu au bon vouloir des médecins, et l'avantage qu'il n'y ait pas de loi, c'est que chacun peut faire son marché, et l'inconvénient c'est qu'en fait chacun...
T'es à la merci. En fait, parce que si tu passes pas par ce protocole là, tu peux, j'imagine, trouver des hormones par internet, machin, mais un... tu sais pas trop ce que t'achètes, et deux, jamais t'es remboursé, j'imagine, si tu passes pas par ces trucs-là. Et les opérations, les thérapies hormonales, tout ça, ça coûte grave de sous, quoi.
Ça coûte très cher. D'ailleurs, c'est, je pense, à peu près deux fois plus cher en France qu'au Canada, aux États-Unis ou en Thaïlande. Mais c'est vrai que ces protocoles-là, ils sont intéressants, parce qu'en fait, la personne est suivie et encadrée. Par contre, des fois, elle est juste un peu trop suivie et encadrée, et elle est dans des contraintes et dans des stéréotypes. Enfin, on va lui demander, en fait, quand c'est une transsexuelle, donc un garçon qui veut, grosso modo et très schématiquement, changer de genre vers un genre féminin, on va lui demander qu'une fois que sa transition sera terminée, que ce soit sûr qu'elle aime bien les garçons. Et puis, on va surtout lui demander aussi de se faire stériliser. Ça, c'est une obligation si on veut changer d'état civil.
Ça, c'est une obligation légale, tu veux dire?
C'est une obligation. Alors, c'est pas une obligation légale. C'est en fait des tribunaux qui fonctionnent encore comme ça, malgré des circulaires du ministère de la Justice qui ont demandé à ce que ça ne soit plus le cas, parce que c'est juste discriminant. Et malgré les textes et les circulaires du ministère de la Justice, malgré les décisions du Conseil de l'Europe, et ben en France, on est encore à la traîne, et on décide qu'il faut stériliser les trans, parce que, pourquoi, on ne sait pas. Ça pourrait peut-être être dangereux, on ne comprend pas trop, en tout cas les trans ne comprennent pas, moi je ne comprends pas non plus, mais ils attendent vraiment cette stérilisation pour changer l'état civil. Voilà, donc en fait, le parcours est assez compliqué, il est assez difficile, parce que on se retrouve face à des psychiatres qui sont pas forcément formés, à des médecins qui sont pas forcément au courant de ces questions-là, à des endocrinologues, ceux qui prescrivent les hormones, du coup, qui font un peu, c'est un peu de la bidouille, hein, parce qu'il n'y a pas de chaque mélange hormonal est spécifique à chacun. Et du coup, voilà, c'est un peu le parcours du combattant et il faut s'accrocher. D'où l'intérêt d'avoir un peu des références et de savoir ce qu'on attend à chaque fois qu'on va voir chacune de ces personnes.
Et du coup, pour les personnes qui transitionnent en partant d'un sexe et d'un genre d'origine, mais qui ne veulent pas tomber dans la binarité et aller, par exemple, je connais quelques personnes qui sont parties d'un sexe féminin, mais qui ne veulent pas aller forcément vers du masculin, qui transitionnent plutôt vers quelque chose qui serait X, entre ni l'un ni l'autre, ou entre les deux, je ne sais pas comment dire. Et ça, du coup, c'est complètement exclu dans les cadres du parcours pour avoir des remboursements et pour avoir des papiers. De toute façon, en France, ça n'existe pas, la case X.
La case X n'existe pas, du coup, c'est problématique. Alors, je pense que pour les remboursements, soit on décide de faire semblant de jouer le jeu un petit moment, et puis jusqu'à ce que ça nous intéresse, jusqu'à au stade où on veut, sachant qu'il faut quand même arriver à soutenir le choc. Ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Des garçons qui veulent évoluer vers X parce que c'est pas tant de devenir femme qui les intéresse, mais c'est qu'ils se sentent pas à l'aise ni dans les codes masculins ni féminins. Ils se sentent pas à l'aise dans les codes, en fait, comme ça devrait être le cas de beaucoup de gens, on espère. Et du coup, c'est vrai que là, ça pose problème parce qu'on tombe pas dans les petites cases prédéfinies des protocoles, tout simplement. Mmh. Et juste peut-être pour terminer là-dessus, parce que c'est quand même un sujet complexe et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a quelques revendications qui sont vraiment très importantes pour les trans. C'est justement ce côté de dépsychiatrisation, c'est-à-dire de décider qu'on n'a plus besoin d'aller voir un psy, que tout le monde n'a pas besoin d'aller voir un psy pour justement avoir accès aux hormones et à sa transition. Il y a ce côté-là aussi que les associations de trans trouvent révoltantes, justement de stérilisation. Et puis après, il y a plein de choses, notamment sur la prise en charge du parcours par l'assurance maladie, sachant que quand on est trans, c'est pas un choix, hein, c'est comme quand on est homo, hein, on se souvient que l'homosexualité a été décriminalisée en 92. C'est tout récent, et puis on espère que pour les trans ça va aller vite, puisque c'est un peu c'est un peu les retards. Et voilà, donc il y a plein de choses. Je pense que je mettrai pas mal de références sur le site internet de Calibre pour que ça puisse en plus chacun et tous avoir un peu plus d'infos sur les revendications.
Peut-être le contact d'une asso.
Alors l'asso la plus proche c'est Chrysalide à Lyon. Ils ont un site internet dont on mettra aussi la référence sur notre site à Calibre, mais je crois que c'est Chrysalide Lyon. .free.fr.
Bravo.
De tête. J'ai potassé un petit peu. Voilà.
Et donc, je ne sais pas de quand date la brochure là qu'on a, mais à 2008, et à l'époque, il y avait des permanences.
Il y en a encore.
Voilà, un samedi, le troisième samedi de chaque mois. Mais alors, je ne sais pas si c'est pareil. Il faut peut-être les contacter pour voir si ça n'a pas bougé.
Il faut les contacter, c'est sûr. Je sais qu'ils éditent encore des brochures qui sont encore là, qui font du suivi avec les trans pour essayer un peu que chaque personne puisse y voir un peu plus clair. Et puis qu'il y a aussi pas mal de brochures sur les proches de trans, les familles, parce que quand même c'est un soutien et qu'il faut quand même être un peu informé des gens qu'on a autour de nous. Voilà, donc Chrysalide à Lyon, il y a sans doute des assos à Paris, mais je connais pas tellement. Et puis il y a du coup Mutatis Mutandis à Bordeaux qui publie ce petit livre, ce gros livre même, qui coûte un peu cher. Voilà, 21 €.
Et on peut pas le trouver dans des bibliothèques.
Pas encore. On espère bien.
Faut les demander dans toutes vos bibliothèques de quartier.
C'est ça, les faire acheter.
On va s'écouter un dernier morceau.
Soyons fous. Est-ce qu'on écoute Diams, Ma Souffrance? Allez.
C'était un samedi soir, avec mon mec on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien. Mais peu importe, on était bien, donc viens, ce fameux soir et on se promène. On ira loin, je te le promets, je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps, je devais froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé? Dis-moi t'as un souci? Ça sentait le roussi mais moi je connais, je suis resté. Il m'a dit tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester. Mais bébé je fais du rap, j'aime ce que je fais, c'est des potes. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Loin de me douter que sur moi il lèverait la main. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. Je crois qu'on se met trop en mer. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. Je crois qu'on se met trop en mer. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. J'étais perdu, en panique sur le trottoir. Je voulais rentrer, pas d'RER, 1h du mat. Il est trop tard, il me dit, tu restes avec moi. C'est rien, ça va passer. Une minute après, j'ai juste senti mes côtes se casser. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse. Puis en baisse, il m'a relevé, m'a embrouillé. Puis m'a dit, ferme ta gueule Mélanie. Et dis à ta mère que tu rentres mardi. Tes mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude, ordonnance au volant. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur, j'ai souffert. Fermez les yeux, baissez la tête, c'est tout ce que j'ai su faire. L'amour en aveugle, mais j'ai tout vu. C'était écrit, malheureusement j'avais pas tout lu. J'ai eu mal et j'ai rien dit, il m'a menacé de mort. J'étais bloqué, j'avais peur, mais je crois que j'ai eu tort. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur.
Vous êtes seule ?
Oui, et c'est mon choix. Mon corps m'appartient et je n'ai pas besoin d'un homme pour exister. Je ne marche pas dans la rue pour t'apparaître féminine, donc baisable.
Tu pourrais être canon si tu mettais une jupe. T'es qu'une sale gouine.
C'est-à-dire quelqu'une que tu ne peux pas baiser, autrement dit posséder. Eh bien oui.
C'est il ou elle ?
C'est pour savoir si ça va être rentable de me draguer. Que ce soit il ou elle, ni l'une ni l'autre, je ne t'en donne pas le droit. Bite ou vagin, votre système binaire ne me correspond pas.
Vous n'avez pas peur ? Pour qui tu te prends, salope ? Tu suces ? T'es bonne, tu sais ?
Bon, ben, autant d'insultes hein, qu'on entend tous les jours en tant que femme, gouine ou trans, qui sont des atteintes directes à nos corps et à nos personnes. Tout ça, c'est de la violence sexiste ordinaire, et cette violence, elle est utilisée par la société qu'on appelle hétéropatriarcale, donc avec une norme très forte d'hétérosexualité et de domination masculine. Et ben, ces insultes, elles permettent de nous réassigner à une place sociale inférieure, à nous remettre un petit peu à notre place, comme on dit. Alors ces insultes, elles n'ont pas lieu que dans la rue. Puisque cette violence se vit partout, dans tous les espaces, dans tous les milieux. Par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, on a pu entendre il n'y a pas très longtemps un truc style « habillé comme ça, il ne faut pas s'étonner de se faire violer ». Pour nous, les violences, c'est partout, tous les jours et toutes les nuits. Et dans l'espace public, la nuit ferait de nous des victimes. Nous devrions nous terrer, nous devrions nous faire accompagner, raccompagner. Mais nous n'avons pas peur. La rue est notre espace. Comme nous le voulons, quand nous le voulons, et nous le voulons la nuit.
Ça, c'est des revendications pour la marche de nuit féministe non mixte. Meuf Gwyn Trans, c'est samedi 26 novembre à Lyon, donc ce samedi. Marche de nuit féministe, c'est, alors je vais vous lire le communiqué parce que c'est très clair, des individus, collectifs et organisations féministes de Lyon proposent une marche de nuit non mixte le 26 novembre. Nous marcherons ensemble sans étiquette pour prendre notre place légitime dans la rue et dénoncer l'appropriation permanente qui est faite de nos corps jusque dans l'espace privé. En jupe, en jean ou en burqa, mon corps n'est qu'à moi, ni invisible, ni disponible. Cette marche s'adresse à toutes les personnes qui se sont considérées ou ont été considérées comme femmes. Et ça se passe à 19h, place du Pont, au métro Guillotière. Voilà, du coup quand même une action importante pour se réapproprier l'espace de la nuit quand on est une meuf, une gouine ou une trans.
Voilà. Bon, finalement c'est plus tard que prévu. Alors je voulais raconter les histoires, pourquoi ces non-mixités là, tout ça, mais tant pis, ça sera pour une autre fois.
On va dérouler un peu le planning, juste pour dire qu'il y a justement au planning familial une projection pour l'occasion de ses 50 ans.
Donc ça c'est demain, donc c'est vendredi demain, 25. Par contre c'est pas au planning familial, hein, c'est sur le campus de Saint-Martin d'Aire à Ève.
Donc voilà, et c'est une soirée projection débat avec un petit film et puis après justement un débat en présence d'associations. comme Oser le féminisme, SOS homophobie et Accès, et puis des personnels de santé et de l'éducation nationale, et surtout des gens du planning familial. Donc vendredi 25 novembre à 18h, de 18h30 à 21h sur le campus à Ève.
Voilà, le petit film, il évoque l'histoire de la création du planning familial, puisque la première permanence, en fait, elle avait eu lieu à Grenoble, donc il y a 50 ans, et puis comment il a fonctionné, son évolution, et puis une réflexion sur sa place aujourd'hui, et c'est un peu ça qu'il va discuter après, si je comprends bien, la fragilité des acquis, la lutte constante nécessaire pour consolider les libertés individuelles. Voilà, donc c'est demain, vendredi 25 novembre, de 18h30 à 21h.
Et il y a également une projection à la BAF.
Oui, alors ça veut dire que demain, il faut choisir, parce qu'il y a deux possibilités intéressantes.
Donc à la BAF, je ne sais plus à quelle heure c'est, mais c'est...
Je crois que c'est à 20h ou 19h, ça doit être marqué sur le petit machin.
Bon, on va retrouver ça. C'est un film qui s'appelle Towelhead, Nothing is Private. Et en gros, et en deux mots peut-être, parce qu'on n'a plus trop le temps, mais c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Jazira, libanaise, qui est envoyée chez son père parce que sa mère, en fait, n'aime pas que Jazira plaise un peu trop à son copain. On imagine le copain. Et puis Jazira, en fait, elle commence à plaire un peu à beaucoup de gens et elle se confronte à plein de remarques désobligeantes, sans doute et très certainement masculines. Et du coup, en fait, c'est toutes ces réactions qui explosent, en fait, quand le corps change et qu'on devient une femme. Et qu'on devient une proie, peut-être.
Ouais. Bon, là, je crois qu'il y a aussi la question du regard raciste, ou en tout cas racisé, parce que donc c'est une enfant d'origine libanaise, voilà. Et du coup, c'est à donc si dans tous ces gens qui la brident ou l'agressent ou voilà, avec son corps qui change, effectivement, bah finalement, il y a juste sa voisine Mélina qui la prend sous son aile. Donc c'est une projection qui a lieu demain à 20h, donc vendredi 25 novembre, à la BAF qui se situe 2 chemins des Alpins. Donc c'est la première petite rue à droite quand on descend Stalingrad et qu'on croise les Alliés. C'est une soirée non mixte, encore une fois, donc entre meufs, gwyn et trans, avec un bar, un buffet, une table de presse à disposition. Puisqu'on est sur la BAF, je voulais juste rappeler, donc la BAF c'est un centre social autogéré qui s'est ouvert là à la rentrée, et qui est donc avec tout un processus de... enfin avec l'envie de faire les choses sans hiérarchie, en horizontalité, de lutter contre les oppressions, les discriminations, tout ça. Et du coup, c'est la BAF, c'est les gens qui y sont, qui le font, donc allez-y, n'hésitez pas à vous impliquer dedans. Et c'est à la BAF justement qu'il y a, dont on a déjà parlé, de la bibliothèque féministe sur Grenoble, et il y a des permanences pour donc pouvoir emprunter des bouquins, des vidéos gratuitement pour pouvoir discuter avec les personnes qui tiennent la permanence, et c'est tous les lundis de 16h à 20h. Encore une fois, ces permanences-là sont en non-mixité meuf, gwyn et trans, à l'exception du premier lundi de chaque mois où là, la bibliothèque est ouverte à tout le monde. Et dans le cadre de ces permanences, il y a les rediffusions de l'émission féministe Dégenrée qui ont lieu. Donc c'est sur les lundis qui sont non mixtes. Voilà, c'est des moments sympas d'écoute collective.
Il faut en profiter, il faut en profiter. Vous écoutez Calibre, Radio Kaléidoscope. Merci à tout le monde.
Alors, non, moi j'ai une dernière annonce agenda, je suis désolée, hein, je vais dépasser un peu, mais là c'est pas possible parce qu'il y a un film génialissime qui se passe mardi prochain, encore sur le campus, à Ève.
C'est Regarde, elle a les yeux grands ouverts,
c'est un film de Yann Masson qui a été tourné en 1980. Qui est formidable. C'est, en fait, on suit des meufs qui donc vivent, certaines en communauté, mais pas toutes, et surtout qu'on crée le MLAC, donc un des MLAC, donc des mouvements pour la libération de l'avortement et exactement. De la contraception, qui est un petit peu tous ces mouvements militants qui ont permis que la loi veille sur passe, l'avortement ouais. Puisse passer et tout ça. Et du coup, on suit ces femmes, donc, et dans leur pratique, c'est-à-dire de elles-mêmes être capables de faire entre femmes des avortements et des accouchements à la maison. C'est-à-dire vraiment dans un milieu non médicalisé, hyper simple, enfin hyper juste, enfin vous verrez, c'est génial. Donc on voit ces pratiques-là, et puis on voit aussi toutes leurs réflexions militantes sur maintenant que l'avortement a été légalisé, Alors certes, la loi est bien en dessous des revendications que ces femmes avaient en termes d'appropriation des avortements, notamment. Mais du coup, maintenant que cette loi est passée, est-ce qu'on continue à faire des avortements, nous, dans notre cadre ou pas? Quel risque c'est? Et sur pendant ce film, par exemple, elles ont un procès. Donc on voit aussi, on suit leur procès, toutes les mobilisations qu'il y a autour pour les soutenir, les discussions qu'elles ont entre elles. Vraiment, c'est un film génial. Donc, c'est mardi 29 novembre à 18h.
C'est à 18h et c'est pas à Eve, par contre. C'est toujours sur le campus, mais c'est à l'amphi art et sciences humaines à Saint-Martin-d'Air, du coup. Voilà, je pense que tu étais passionné par ce film. Tu vas retourner le voir?
Eh bien, le mardi, je peux pas, mais je l'ai déjà vu 4 fois, je crois.
Donc, il faut y aller.
Bon, allez, cette fois, on s'arrête. Ce soir, c'était Greg, Mimi, Myriam au micro. C'était Laura et Alice au téléphone et à la technique. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.